France Culture.
Humaine, c'est pourquoi, après cette thèse des Grecs sur la connaissance logique de l'avenir, qu'il est vrai ou faux que César franchit le Rubicon ou pas, Leibniz, par exemple, a expliqué que Dieu peut prévoir absolument l'avenir, et c'est seulement les limites de notre connaissance qui font que nous ne savons pas, nous, si César franchit le Rubicon ou pas. César lui-même, d'ailleurs, étant incertain sur ce point et le décidant au dernier moment d'un coup de dé. Mais le problème logique de la capacité de prévoir l'avenir, de la réalité, de l'imprévisibilité du temps, est toujours effacée par le problème pratique. Prévoir l'avenir, ce n'est pas le maîtriser absolument d'une manière théorique, il nous est obligatoire non seulement de le prévoir, mais de le prévenir. Peut-être est-il plus important de se représenter l'avenir non pas comme un spectacle qu'on se donne à l'avance, un prévoir, mais plutôt comme une action que l'on doit préparer dès maintenant, un prévenir. Passons de la prévoyance à la prévention, c'est la question.
Merci Frédéric Worms. Cette émission a été réalisée par Nicolas Berger avec à la technique Alex Dang. Elle a été préparée en particulier par Anna Feulpin et toute l'équipe d'Avec Philosophie. Carla Michel, Nassim El Kabli, Corinne Amar, Victoire Mellet. Vous êtes sur France Culture. Vive la curiosité.
Vague manga déferle sur Paris. À partir du 19 novembre, l'exposition événement Manga tout un art investit tous les espaces du musée Guimet. De ses origines jusqu'à son influence mondiale, la galaxie manga n'aura plus de secret pour vous. Manga tout un art, du 19 novembre au 9 mars 2026 au musée Guimet, musée national des arts asiatiques. Manga tout un art, une exposition France Culture.
Demain, suite de notre série consacrée à Platon, nous évoquerons le dialogue de Platon qui s'intitule le Gorgias, où Socrate est mis en difficulté par des défenseurs de la rhétorique qui saluent toute la puissance séductrice que la rhétorique peut donner. Ce n'est évidemment pas l'avis du Socrate de Platon. Il est 11h, l'heure de Culture Monde. Bonjour Julie Gacon.
Bonjour Géraldine Mulman.
Vous parlez du patrimoine cette semaine.
Oui, exactement. On commence une série, ce sont les 80 ans de l'UNESCO, cette année, et même plus précisément ce mois de novembre. On parle donc du patrimoine trésor des nations, et on commence avec une émission sur l'institution UNESCO.
Très bonne émission Julie.
Merci beaucoup. Bonjour et bienvenue dans Culture Monde, émission préparée avec Mélanie Chalandon, Barthélémy Gaillard, Sacha Mattei, Louan Deniel et Loïc Antoine. Réalisée par Vivian Lecuivre et Margot Page. À la technique ce matin, c'est Éric Perruchot-Triboulet. C'est le premier volet de notre série consacrée aux enjeux politiques du patrimoine. On parlera demain du trafic d'œuvres d'art qui finance le crime organisé. Mercredi, des projets de grands musées portés par les États du monde arabe. Jeudi, du retour des œuvres pillées lors de la colonisation, vues depuis le Bénin. Aujourd'hui, l'UNESCO qui fête ses 80 ans en ce mois de novembre, un monument du multilatéralisme en péril.
Nous sommes là pour épauler les sociétés civiles, les aider à retisser des liens dans ce qu'elles ont à la fois d'universel et de singulier, c'est-à-dire leur identité, leur histoire, leur avenir.
Il n'est pas dans l'intérêt national des États-Unis de continuer à nous investir dans l'UNESCO. L'UNESCO défend des causes sociales et culturelles qui divisent. Elle porte une attention démesurée aux objectifs de développement de l'ONU. Plus largement, elle a un agenda globaliste qui est en contradiction complète avec le mot d'ordre de notre politique étrangère, America First.
J'ai intitulé mon slogan, donc ma campagne, l'UNESCO pour les peuples. Je veux une UNESCO qui a de l'impact sur la vie des gens, une UNESCO qui est connue et reconnue par les gens, au-delà du patrimoine culturel.
Quand il a été très largement choisi pour être proposé à la direction de l'UNESCO le 7 octobre dernier, l'Égyptien Khaled El Enani, que l'on vient d'entendre, l'a joué modeste, pas de triomphe superflu. Il s'agit de se mettre au travail pour construire l'UNESCO pour les peuples, donc une organisation internationale qui parle à tous, loin de la bureaucratie et des luttes d'influence entre ambassadeurs de ses 194 États membres. C'est que l'UNESCO se sent obligé de défendre sa crédibilité, notamment pour convaincre les États-Unis de revenir. En juillet dernier, l'équipe de Donald Trump disait sa défiance envers une institution qualifiée de ce qui est pour elle la pire insulte, woke, mais aussi mondialiste, partiale, anti-israélienne quand elle a à s'exprimer sur le Moyen-Orient. L'UNESCO est donc privée de son principal financeur, affaiblie sur le plan économique, sujette aux ambitions d'autres puissances comme la Chine, intéressée pour combler ce manque. L'institution dispose néanmoins toujours d'un pouvoir symbolique énorme, celui de placer tel ou tel site culturel sur la liste du patrimoine mondial, avec toutes les questions que cela pose, comment s'abstenir de privilégier une culture au détriment d'une autre, comment rester imperméable aux tentatives d'influence des États membres, et enfin comment concourir au renforcement de la paix par le patrimoine, car c'est bien cela que prévoit le mandat de l'UNESCO. Bonjour Mathilde Leloup.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes maîtresse de conférence à l'Institut d'études européennes de l'Université Paris 8, directrice adjointe du CRESPA, qui est le Centre de recherche sociologique et politique de Paris. Alors Mathilde Leloup, d'abord, puisque l'UNESCO a un nouveau directeur depuis 11 jours officiellement, l'Égyptien Khaled El Enani, pour succéder à la Française Audrey Azoulay. C'est l'occasion d'abord de dire comment est désigné le directeur ou la directrice de l'UNESCO et si les candidats mènent en amont une véritable campagne. Est-ce que Khaled El Enani a mené campagne pour être élu directeur de l'UNESCO ?
Bonjour, oui, absolument. Les différents candidats mènent absolument une campagne. C'est-à-dire que souvent, on voit la politique nationale comme étant assez distincte de la politique internationale et de ce qui va se jouer dans les organisations internationales, parce qu'il y a un petit peu l'idée que la politique, c'est pour le niveau national et qu'au niveau international, les enjeux seraient apolitiques, ce qui est en fait complètement faux. La politique est partout dans les organisations internationales et c'est une vraie campagne qui se joue. Pour ce qui est de l'élection, c'est donc le conseil exécutif, qui élit le futur directeur général et ensuite il est nommé par la conférence générale.
Conseil exécutif qui ne compte qu'une cinquantaine, je crois, d'États membres de l'UNESCO. 58
absolument.
États.
Voilà.
Une petite soixantaine alors. Qu'est-ce qu'on sait de son parcours à cet ancien ministre des Antiquités et du Tourisme égyptien sous la présidence d'Abdel Fattah al-Sissi ? Ça, c'est ce qu'on sait. Il a été ministre d'Abdel Fattah al-Sissi, mais son parcours, si on prend un petit peu sur le temps un peu plus long ?
Alors, il est spécialiste en égyptologie et il a notamment été le grand... penseur, architecte du Grand Musée du Caire, qui a été le projet qui, je pense, a marqué sa carrière et le fait que le musée s'ouvre également actuellement est complètement en lien. Et je pense qu'il y a, c'est principalement aussi ça qui sans doute explique le succès de sa candidature et aussi son expérience en tant qu'égyptologue.
On en parlera d'ailleurs mercredi de l'ouverture de ce musée comme d'autres musées dans le monde arabe. Mmh. Cette politique qui est de plus en plus menée dans des pays, ce sera l'objet de notre émission mercredi. Ce nouveau directeur de l'UNESCO est francophone. Il a été formé à l'université de Montpellier après celle d'Élouan en banlieue du Caire. Donc un nouveau directeur pour porter une institution dont le rôle est à la fois de valoriser et de protéger le patrimoine, mais aussi l'éducation, la science, la culture, pour construire la paix à travers la solidarité morale et intellectuelle de l'humanité. C'est ni plus ni moins le mandat de l'UNESCO depuis sa création en 1945. C'est à la fois très vaste et très flou. Il a donc été élu, lui, avec 55 voix sur les 58 du Conseil exécutif de l'UNESCO. Pourquoi, avec quels arguments, sa candidature a-t-elle été défendue par l'Union africaine, la Ligue arabe, mais aussi la France, la Turquie, le Brésil, l'Espagne ?
En fait, ça fait plusieurs mandats aussi qu'il était question qu'un pays arabe dirige l'organisation, et notamment Audrey Azoulay, donc sa prédécesseuse, a déjà fait deux mandats, mais au moment de sa première élection, en 2017, il était déjà question que ce soit un pays arabe qui dirige l'organisation, et je pense que, voilà, il était aussi temps que ce soit... Il y a ce principe de répartition géographique à la tête des organisations internationales qui est très important. Et c'était plutôt surprenant, en fait, que Audrey Azoulay prenne la tête de l'organisation en 2017. C'était François Hollande qui l'avait proposé. Et il y a un petit peu une règle tacite selon laquelle C'est coutumier, hein, mais disons que le pays hôte de l'organisation internationale dirige rarement l'organisation.
Donc
je
Paris,
pense qu'il y avait vraiment en l'occurrence la France, aussi, ouais. Voilà, de diriger l'organisation par un pays arabe, sachant que ce sont aussi les pays qui sont très actifs, ouais. À la fois comme donateurs, mais aussi donc avec ce type de projet comme le Grand Musée du Caire, qui est directement en lien avec le mandat de l'UNESCO.
Khaled El Enani a tenu à dire, en tout cas dans son discours, qu'il ne serait pas le directeur général du monde arabe. Il a promis aux États membres de tous les rencontrer durant les 100 premiers jours de son mandat pour travailler avec eux. Et l'un de ses objectifs principaux, c'est d'aller chercher de nouveaux financements, des financements privés.
J'ai géré deux ministères, le tourisme et les antiquités, que j'ai fusionné. Et donc, j'avais beaucoup travaillé avec le secteur privé, avec les grandes entreprises, pour mobiliser des fonds, pour signer des partenaires avec le secteur privé. Donc, avec les États membres, je vais continuer ces efforts pour rassurer les anciens donateurs de continuer à donner davantage même et attirer de nouveaux gouvernements, les donateurs et le secteur privé. Je crois que le secteur privé, c'est aussi une priorité, mais tout en gardant et préservant les valeurs de l'UNESCO, qui ne doit pas être trop commercialisé. Et là, je crois qu'il y a un compromis qu'on pourra atteindre avec la famille UNESCO.
Khaled El Enani, sur RFI le 7 octobre dernier, Mathilde Leloup, recourir au financement privé, ça se fait déjà beaucoup à l'UNESCO ?
Oui, absolument, et dans le multilatéralisme en général. Dans les budgets des organisations internationales, on distingue, en tout cas pour ce qu'on appelle les agences spécialisées, donc c'est le cas de l'UNESCO, mais c'est aussi le cas de l'OMS à laquelle on pourrait facilement la comparer, on a ce qu'on appelle les contributions volontaires et les contributions obligatoires. Pour une organisation comme l'OMS, c'est en gros 80% de contributions volontaires et seulement 20% aujourd'hui de contributions obligatoires. Donc les contributions obligatoires, c'est ce qui va permettre de faire fonctionner le siège, de payer les fonctionnaires, etc., ce qui va permettre en fait le fonctionnement quotidien de l'organisation internationale. Là où les contributions volontaires, elles vont être fléchées. C'est-à-dire qu'un pays va donner un financement pour mettre en œuvre un certain programme. Donc, ça veut dire qu'il y a aussi moins de marge de manœuvre pour les secrétariats des organisations internationales au fur et à mesure que les contributions volontaires augmentent dans leur budget.
C'était le cas, par exemple, quand les États-Unis se sont laissés convaincre par Audrey Azoulay en juin 2023 de revenir à l'UNESCO, d'être à nouveau à la fois un État membre et contributeur. Ils avaient même versé des arriérés.
Absolument.
Et une contribution de 10 millions de dollars pour l'enseignement de la Shoah, mmh. pour la protection du patrimoine ukrainien et la protection de la presse. On était là sous Joe Biden et Anthony Blinken encore en juin 2023. Donc les arriérés, c'était depuis qu'ils avaient quitté l'UNESCO en fin 2018, ils avaient accepté de payer tout ce qu'ils devaient depuis fin 2018, ce qui était exceptionnel ouais. à l'époque. Là, les États-Unis sont de nouveau partis. Combien ?
600 millions de dollars.
600 millions de dollars. Mmh. Là, ils sont partis, les États-Unis. Est-ce que c'est le rôle du nouveau directeur Khaled El Enani de les convaincre de revenir ? Est-ce qu'il en a déjà affiché l'intention ? Ou il s'est dit, pour l'instant, on va laisser tomber ? Il n'y a même pas une once de chance que sous Donald Trump, l'UNESCO revienne ?
Alors, il y a toujours une chance, c'est-à-dire que j'ai coutume de dire que les retraits de l'UNESCO pour les États-Unis deviennent un phénomène assez routinier. Donc finalement, ça devient une habitude en début de mandat pour Donald Trump, et ça fait complètement partie de son ambition populiste, de se retirer non seulement de l'UNESCO, mais aussi de l'OMS, des accords de Paris. Ça fait partie d'une routine.
Sous Reagan déjà, les États-Unis étaient partis.
En 84, effectivement, c'est absolument pas le premier retrait des États-Unis de l'UNESCO. Donc ça devient quelque chose d'assez routinier. Ce qui est particulier pour l'annonce qui a été faite en juillet 2025, c'est que pour le coup, la direction de l'organisation et ses fonctionnaires avaient déjà pris la mesure du fait qu'il allait se retirer et donc avaient déjà épargné la contribution américaine et réduit considérablement réduit déjà la voilure de l'organisation et de ses programmes pour justement rentrer dans ces fonds. Là où, au moment du retrait qui avait été annoncé en 2017 et qui a été effectif en 2018, c'était le choc. Ou en 2011, quand la Palestine a été reconnue comme membre à part entière de l'UNESCO.
Ça, quand la Palestine a été reconnue comme membre à part entière de l'UNESCO, ça avait à ce point créé un choc que même à l'époque, les États-Unis étaient présidés par Barack Obama mm-hmm. et il avait dû retirer les fonds mm-hmm. en vertu d'une loi américaine.
Oui, c'était le Congrès en fait.
C'était le Congrès qui l'avait forcé à retirer.
Qu'est-ce qui s'était passé ? Ouais, le Congrès américain interdit aux États-Unis de soutenir une organisation qui reconnaît officiellement la Palestine comme membre à part entière. Donc en fait, il y avait eu une obligation de se retirer, mais à cette époque-là, en fait, on distingue les retraits complets d'une organisation du retrait des financements. Ce qui veut dire que les États-Unis pouvaient toujours agir dans l'organisation en tant que membre observateur, mais n'avaient plus de fonds dans l'organisation.
En tout cas, les États-Unis ont très régulièrement reproché à l'UNESCO d'être de parti pris contre Israël. Mm-hmm. Donald Trump, là, en ce moment, mais surtout son conseiller Will Scharf, qui n'arrête pas de dire que l'agence est woke et que toutes les décisions qu'elle prend sont contre Israël, notamment quand l'UNESCO a adopté en 2016 une résolution pour critiquer la gestion israélienne des lieux saints à Jérusalem, notamment de l'esplanade des mosquées que le judaïsme appelle Mont du Temple, mm-hmm. et en 2017, l'inscription de la vieille ville de Hébron sur la liste du patrimoine mondial.
Encore une décision délirante de l'UNESCO. Cette fois, ils ont estimé que le tombeau des patriarches à Hébron est un site palestinien, ce qui veut dire non-juif, et que c'est un site en danger. Pas un site juif ? Qui est enterré là ? Abraham, Isaac et Jacob, Sarah, Rebecca et Léa, nos pères et nos mères. Et le site est en danger ? Il n'y a que dans les endroits où Israël est présent, comme Hébron, que la liberté de religion est garantie pour tous. Au Moyen-Orient, mosquées, églises, synagogues et autres lieux sont bombardés là où Israël n'est pas présent. Donc nous continuerons à préserver le tombeau des patriarches, la liberté de religion pour tous, et nous continuerons à préserver la vérité.
Le tombeau des patriarches à Hébron, que l'islam appelle mosquée d'Ibrahim, Hébron qui est un lieu saint pour les trois religions monothéistes. Est-ce que on a une idée, Mathilde Leloup, des débats qu'avait occasionné en 2017 cette inscription de la vieille ville de Hébron sur la liste du patrimoine mondial sous le nom arabe de Al-Halil, et si l'UNESCO a toujours été accusé d'avoir un biais anti-Israël?
Oui. Depuis ses débuts, l'UNESCO est accusée effectivement d'être trop politisée. On l'accuse très régulièrement de politisation. C'est absolument pas la seule organisation internationale que l'on accuse de cette manière. Mais très clairement, c'est celle qui est le plus souvent accusée de l'être. L'OMS est aussi régulièrement accusée de l'être, l'OIT l'a été aussi, la Banque mondiale aussi, mais l'UNESCO, et c'était intéressant de remarquer aussi la rhétorique qui était employée par Donald Trump en juillet 2025, c'est-à-dire que, soi-disant, l'UNESCO mène un mandat qui est en fait contraire à l'intérêt national américain, donc son programme America First. En réalité, ce qui est intéressant avec la politisation, mais je pense qu'on sera amené à en reparler, c'est que finalement, en accusant de politisation, les États politisent l'organisation. C'est-à-dire qu'ils créent cette politisation aussi par cette accusation finalement. Donc c'est un peu l'arroseur arrosé, cette histoire de politisation. Pour ce qui est du site d'Hébron, effectivement, c'est un site de pèlerinage pour les trois grandes religions monothéistes. C'est souvent un des critères de classification sur la liste du patrimoine mondial, c'est-à-dire c'est souvent des sites qui sont aux confluences de plusieurs cultures, civilisations, religions. L'enjeu étant aussi de créer un dialogue. C'est aussi toute cette notion de diversité culturelle qui est aussi un peu mise en valeur par ces sites-là. Mais c'est souvent une confusion que l'on fait par rapport à l'UNESCO, c'est que le patrimoine mondial, on le définit aussi comme le patrimoine mondial de l'humanité. Alors qu'en fait, c'est pas la bonne expression. C'est le patrimoine mondial qui est classé par le comité du patrimoine mondial. Or, la classification d'un site, c'est toujours extrêmement politique. Ce qui se joue au sein de ce comité est extrêmement politique. Et ça n'est pas... Et en fait, en utilisant ce terme patrimoine de l'humanité, du coup, ça en fait quelque chose d'absolument universel. Et en fait, ça met un peu un voile d'apolitisme sur des questions extrêmement politiques et conflictuelles, en fait.
Et comment c'est politique ? Par exemple, ce comité du patrimoine mondial qui n'est composé que de 21 États membres qui ont été élus au préalable par l'Assemblée générale de l'UNESCO, est-ce que les votes se font dans ce comité plus restreint après des débats ? Enfin, à chaque fois, inscrire un site sur la liste du patrimoine mondial, ça occasionne de véritables débats politiques ?
Absolument. En fait, il y a plusieurs étapes dans la classification d'un site et il y a aussi ce que fait l'état de départ. Ce qu'il faut savoir, c'est que la liste du patrimoine mondial, elle surreprésente quand même encore aujourd'hui, même s'il y a eu d'énormes progrès de fait, les pays occidentaux. La France et l'Italie, typiquement, ont énormément de sites classés. Pourquoi ? Parce que, déjà, dans les critères, c'est une liste de 10 critères qui sont établis. On va juger l'authenticité d'un site, son esthétique, son histoire, le fait, justement, comme je vous disais, que ce soit au confluent de plusieurs civilisations, etc. Et, en fait, les critères esthétiques, historiques, sont quand même, à l'origine, plutôt fondus sur le modèle occidental et le modèle de patrimoine tel qu'on le connaît en Occident.
Ça veut dire quoi ? Jusque dans le dossier à monter, les critères qu'on demande, est-ce que vous avez en tête des exemples qui montrent que ça relève de critères plutôt du Nord, entre guillemets ?
J'aurais pas forcément. Disons que, par exemple, la monumentalité. Si on prend, je sais pas, la cathédrale d'Odessa en Ukraine, ou ce qu'on a pu, enfin des monuments qui sont, voilà, qui sont monumentaux et qui sont esthétiques selon des critères. Ça ne veut pas dire que les critères eux-mêmes ne sont pas forcément objectifs, parce que justement il y a plusieurs étapes. Juste avant de revenir sur ces critères, un autre paramètre dont souvent on n'entend pas parler, c'est le fait que c'est souvent les états forts en fait qui peuvent classer les sites. Et par état fort, j'entends état fort institutionnellement parlant. C'est-à-dire qu'il faut avoir une administration étatique solide, un ministère de la Culture qui fonctionne bien, pour pouvoir présenter un dossier de candidature. Et ça, tous les États n'ont pas ce luxe-là. Et quand on est sur des États qui subissent de plein fouet le néocolonialisme, par exemple, on a vraiment parfois des ministères de la Culture qui sont finalement un peu, enfin, plus faibles, en tout cas, que dans des États occidentaux. Et du coup, beaucoup plus de faiblesses structurelles et de difficultés à présenter des dossiers. Et ce paramètre-là, du coup, on en entend assez peu parler, et à mon avis, c'est surtout ça, plus que les critères. Après, il y a cette liste de 10 critères, et en fait, avant que ce soit le Comité du patrimoine mondial, c'est ce qu'on appelle les organisations consultatives. Donc, pour les sites naturels, ça va être l'UICN, donc l'Union internationale de la conservation de la nature, qui va examiner le dossier à partir des critères, des 10 critères. Et voir s'il correspond, je ne sais pas, au critère 1, au critère 2, au critère 3, etc. Donc ça, c'est des experts qui vont venir examiner le dossier.
Avec toutes les autres questions que ça pose, on avait parlé déjà avec Guillaume Blanc dans cette émission, les critères de l'UICN pour mettre sous cloche comme ça de grands espaces naturels, mais ça n'est pas le sujet.
La conservation forteresse, on pourra aussi en parler, mais effectivement, c'est bien l'idée. Même si, encore une fois, ça ne se réduit pas à ça. Et pour les sites culturels, c'est l'ICOMOS. Donc une autre organisation d'experts qui est principalement constituée d'archéologues et d'architectes et qui va examiner le dossier avant que les États ne s'en saisissent. Donc il y a quand même des experts avant.
Par exemple, vous, Mathilde Leloup, vous connaissez bien un site qui s'appelle Koutamaku, qui est dans cette région à la frontière entre le Togo et le Bénin, où ont été bâties des maisons tours en terre. Je ne sais comment les décrire, c'est cylindrique. En tout cas, en général, elles ont une sorte de donjon comme ça en terre, avec un toit. Je ne sais pas si c'est de la paille.
C'est des petites maisons en terre. Effectivement, c'est de l'architecture de terre et ça nécessite un recrépissage. Et c'est magnifique. C'est des petit château, enfin voilà, c'est des termes très occidentaux pour décrire.
Qui ont été bâtis, dans un environnement très, très verdoyant. Est-ce qu'il était une évidence pour l'UNESCO de classer ce site sur la liste du patrimoine mondial, où ça a nécessité de très nombreuses démarches?
Eh bien justement, c'est le cas de l'État togolais. Enfin, j'avais effectué un terrain, ça remonte maintenant, c'était en 2013. Et en fait, à l'époque, j'avais pris conscience de ces enjeux de classification parce qu'en fait, c'était notamment des anthropologues français qui avaient spécialistes de la zone du Koutamaku qui avaient soutenu le dossier de l'État togolais pour qu'il soit présenté au Comité du patrimoine mondial.
Et pour ça, il faut un peu louvoyer, employer des mots dont on sait qu'ils vont faire mouche auprès du comité et que ça va résonner dans le dossier.
C'est l'apprentissage de tout un vocabulaire. C'est souvent, en fait, ces questions-là, on en entend souvent parler au moment des COP. C'est-à-dire, il y a des délégations étatiques qui ont les moyens d'avoir des spécialistes du droit, des spécialistes, des conseillers, etc. Et en fait, c'est ça l'inégalité qui se joue entre États dans le multilatéralisme à l'heure actuelle, que ce soit dans le Comité du patrimoine mondial ou dans les COP ou même ailleurs. C'est-à-dire que pour les États, il faut avoir vraiment la structure derrière qui permette d'être représenté en nombre avec les experts des questions sur les thématiques qui sont examiner.
Au total, aujourd'hui, il y a à peu près 1250 sites qui sont inscrits sur la liste du patrimoine mondial matériel de l'UNESCO. 788 immatériels. Il y a cette autre liste qui, finalement, est assez peu occidentale au centré. Le patrimoine immatériel, ça concerne qui en général? Ce sont des rites, ce sont des chants même parfois. Qu'est-ce qu'il y a sur cette liste-là?
Oui, des rites, des traditions. C'est-à-dire que, en fait, en 2003, au moment où le Japon prenait aussi beaucoup plus de place à l'UNESCO, il y a eu cette influence japonaise pour adopter une autre liste qui justement n'est pas occidentalo-centrée puisque c'est une vision en fait du patrimoine culturel qui est justement très différente de la liste du patrimoine mondial. Parce que classer le patrimoine immatériel, c'est effectivement, comme vous l'avez dit, classer des chants, des traditions, mais ça peut être aussi par exemple, et ça avait été le cas pour les mausolées de Tombouctou, normalement quand un site est détruit, donc il avait été détruit par les djihadistes en 2012.
En sardine.
Voilà. Souvent, ce que fait le comité du patrimoine mondial, c'est que pour décider d'une reconstruction, il faut qu'il y ait ce critère d'authenticité. Et là, pour la première fois, on a, les experts du comité ont décidé que l'authenticité résidait dans les pratiques de recrépissage et de reconstruction propres aux maçons de Tombouctou. Donc c'est ça qui peut être intéressant. En fait, il y a des liens entre les deux. Mais ce qui est sûr, c'est que c'est une vision plus, beaucoup moins occidentalo-centrée du patrimoine. Et c'est en ça que l'UNESCO parvient quand même à se renouveler sur ces questions-là.
Et c'est ce en quoi est très attaché Lazare Elundu, qui était à l'époque chef du bureau Mali de l'UNESCO. Aujourd'hui, il est directeur du patrimoine mondial pour l'UNESCO. Et il parlait, il était à Gao dans ce reportage de la MINUSMA, donc l'opération de l'ONU au Mali, sur la préservation contre les destructions de patrimoine et culturel à Gao, donc à l'est du Mali.
Je pense que par rapport à Tombouctou, l'impact sur la culture, les expressions culturelles à Gao a encore été beaucoup plus fort parce que les instruments de musique ont été incinérés, le musée a été occupé, et même il a servi de lieu d'habitation pour le Mujao. Le patrimoine mondial, le tombeau des Askia, n'a pas été entretenu depuis 2011. Des piliers se sont écroulés. Et ce qui est aussi extraordinaire, c'est que malgré cette grande difficulté, on a senti quand même l'attachement à la culture, l'attachement à leurs référents culturels, surtout des jeunes qui se sont mobilisés pour organiser des rondes de sécurité, mais aussi qui ont souvent nettoyé la mosquée. Parce que ici, c'est le lieu de la prière du vendredi aussi. Et nous avons déjà une idée de l'impact. Et nous sommes vraiment très attristés par la situation, mais aussi très encouragés de voir que les communautés de Gao n'ont pas baissé les bras et attendent vraiment le soutien de la communauté internationale.
La communauté de Gao à l'est du Mali, à l'est de Tombouctou, qui pendant un temps a été vraiment au centre de toutes les attentions. Les habitants de Gao avaient peur d'être un peu laissés pour compte, d'où cette mission de Lazare Elundu à l'époque à Gao. Alors il se trouve, Mathilde Leloup, que vous travaillez particulièrement sur les missions de l'UNESCO quand son champ d'action a été élargi vers les terrains de guerre. D'ailleurs, c'est intéressant de rappeler le contexte. À l'époque, c'était la Bulgare Irina Bokova qui était à la tête de l'organisation. C'est elle qui élargit le champ d'action de l'UNESCO vers ses terrains de guerre et notamment au Mali. À l'époque, pourquoi ça peut paraître idiot comme question, il s'agit de protéger du patrimoine et préserver un patrimoine, mais vous écrivez, Mathilde Leloup, qu'après un terrain d'un an au siège de l'UNESCO à Paris et de l'ONU à New York, vous en avez déduit que la protection du patrimoine culturel donnait corps à l'humanité et que c'est pour cela que toutes les opérations de maintien de la paix aujourd'hui protégeaient aussi le patrimoine. Qu'est-ce que vous avez voulu dire ?
En fait, ce que j'ai voulu dire à l'époque, donc c'était pendant ma thèse de doctorat, c'était qu'il y avait un enjeu symbolique extrêmement fort avec ce patrimoine mondial, justement parce qu'il y a cette confusion avec la notion plus large de patrimoine de l'humanité. Et du coup, ça va induire des confusions avec d'autres termes comme patrimoine commun de l'humanité, alors que le patrimoine mondial ne fait pas partie du patrimoine commun de l'humanité. Un patrimoine commun de l'humanité, c'est quelque chose qui doit échapper à la prétention souveraine des États. Ça n'est absolument pas le cas avec le patrimoine mondial qui est justement lié à la souveraineté des États et c'est là que se situe le politique. Et là, quand on parlait du site d'Hébron, effectivement, c'était aussi le fait que le site soit classé comme un État palestinien avec un nom arabe qui a aussi produit cette réaction du tout premier ministre israélien. Donc il y a vraiment ces enjeux-là. Pour ce qui est de la MINUSMA, en fait, ce cas m'avait beaucoup intéressé parce que c'est la première opération de maintien de la paix de l'ONU à avoir eu vraiment un mandat de la part du Conseil de sécurité de protéger les sites culturels maliens. Et en fait, c'est le seul cas. C'est-à-dire, il y a eu cette mission lancée en 2013. Ce mandat de protection des sites, il a couru jusqu'en 2018 et on n'a jamais eu d'équivalent ni avant ni après. Alors après, en faisant une petite quand même recherche d'archives, je me suis rendu compte qu'il y avait eu des cas, mais vraiment très ponctuels, très ad hoc. À Chypre, par exemple, il y avait eu le cas d'un casque bleu formé à l'histoire de l'art qui avait tout d'un coup entrepris de mener un projet très ponctuel. Mais là, c'est vraiment un mandat du Conseil de sécurité. Et en fait, c'était la France qui était à la manœuvre sur l'adoption de la résolution au Conseil de sécurité, mais aussi l'UNESCO, bien sûr. Et l'enjeu, c'était bien de reconstruire le patrimoine qui avait été détruit. Il y avait aussi le fait, bien sûr, que l'identité du destructeur soit une identité, enfin, un groupe qualifié de terroriste. Donc, ça rajoute encore à l'aspect symbolique de la destruction. Ça avait en plus été très médiatisé, la destruction des manuscrits et des mausolées. La plupart du temps, tout le monde a entendu parler de Tombouctou. Donc, je pense qu'il y a aussi une résonance très forte pour le public large. Et du coup, concrètement, sur place, alors il n'y a pas eu de casque bleu posté à faire de la protection physique de mosquées ou de mausolées, mais en revanche, il y a eu une unité qui a été créée, une unité civile composée de 2 personnes sur ce mandat de 5 ans, et qui a notamment mené des missions ponctuelles avec des fonds de la MINUSMA, à la fois pour soutenir logistiquement les experts de l'UNESCO par les avions, enfin vraiment la logistique quoi, et la sécurité, mais aussi ils ont pris sur eux de mener ce qu'on appelle des QIPs, donc des Quick Impact Projects. Donc c'est dans le mandat de la MINUSMA de, par exemple, délimiter le site de Sanéié à Gao ou de réhabiliter l'orchestre Songoï Star de Gao pour éviter qu'il y ait trop de jalousie par rapport à leurs voisins de Tombouctou qui focalisaient toute l'attention mondiale. Parce qu'il y avait, enfin médiatique en tout cas, parce qu'il y avait ces sites de patrimoine mondial très très connus quoi.
Donc l'idée n'est pas de nier ce rôle important de l'UNESCO, puisque la destruction du patrimoine est désormais systématique dans les guerres, qu'elles soient menées par des groupes terroristes ou par des États, ce ne sont pas des cibles apolitiques, le patrimoine, ce ne sont pas des dommages collatéraux, ils sont très souvent ces monuments ou ces sites visés comme tels. En Ukraine d'ailleurs, en ce moment, une mission de l'UNESCO est sur place depuis l'invasion russe. Quel est son rôle, puisqu'on se doute bien aussi que par ailleurs elle n'empêche pas la destruction des sites. Odessa d'ailleurs, qui a été classée au patrimoine mondial, a tout de même été détruite après son inscription sur la liste. Donc quel est le rôle exactement de l'UNESCO en Ukraine aujourd'hui?
C'est intéressant comme question, parce que justement il y a souvent une confusion, et il y en a eu beaucoup sur la cathédrale d'Odessa, parce que souvent il y a cette idée que parce que l'UNESCO classe un site au patrimoine mondial, il est immédiatement protégé, alors qu'en fait c'est pas le mandat de l'UNESCO. L'UNESCO, elle vient classer un site en lui reconnaissant ce qu'on appelle la valeur universelle exceptionnelle. C'est donc ce qui résulte de l'examen des 10 critères dont on a parlé tout à l'heure. Elle a aussi été classée immédiatement sur la liste du patrimoine mondial en péril. Donc là, ce que peut faire l'UNESCO, c'est solliciter des fonds pour essayer d'améliorer la situation du site. Mais les experts de l'UNESCO et même les membres de l'UNESCO qui sont présents au bureau UNESCO en Ukraine ne sont pas ni des militaires ni des humanitaires. Du coup, ça veut dire que ce sont des experts de l'éducation, de la culture, de la science qui vont essayer de mener à bien les programmes en temps de conflit. Et ce qui est particulier avec le cas de l'Ukraine, c'est justement que aujourd'hui, l'UNESCO agit à l'échelle du pays tout entier dans ces différents secteurs. Et justement, elle ne va pas se focaliser uniquement sur Odessa. Elle se focalise, le travail du bureau actuellement, avec les moyens et les conditions de travail qu'on imagine, sont de mener des projets vraiment à l'échelle du pays tout entier, en évitant cette logique où on se focalise uniquement sur un site, justement.
Alors, on entend bien, Mathilde Leloup, que le mandat de l'UNESCO est politique, quand bien même l'UNESCO parfois se recouvre du voile enchanté de la politisme. Vous citez Jacques Lagrois, la grande figure de science politique française dans vos travaux. Néanmoins, les mandats de l'UNESCO portent sur la culture, l'éducation, la science, le journalisme. Donc, ces mandats touchent aux identités, à l'histoire, aux récits nationaux. Donc, il faut toujours avoir en tête qu'il y a une forme de politique dans ce mandat-là. Et plus précisément, on reproche beaucoup, Mathilde Leloup, au conseil exécutif de l'UNESCO, celui qui est chargé d'étudier, de valider ou de refuser le programme du président et ses choix budgétaires, d'être une instance politique. Il faut s'y attarder un petit peu, parce que c'est très spécial, ce conseil exécutif de l'UNESCO. On y trouve notamment des personnes qui sont ambassadeurs ou ambassadrices de pays avec lesquels ils n'ont rien à voir. Qu'est-ce que c'est que ce conseil exécutif de l'UNESCO, et comment sont désignés ses membres?
En fait, il y a 3 organes principaux à l'UNESCO. Il y a donc ce qu'on appelle la conférence générale, le conseil exécutif et le secrétariat. La conférence générale, elle définit les orientations générales de l'organisation. Le secrétariat, il met en œuvre ces grandes orientations qui sont donc proposées par les États membres, puisque donc le secrétariat et les fonctionnaires travaillent en fonction du mandat qui leur est accordé par les États membres. C'est toujours comme ça dans les organisations. Ce qui ne veut pas dire qu'ils n'ont pas de marge de manœuvre. Le secrétariat a quand même une marge de manœuvre par rapport à ses objectifs fixés. Et le conseil exécutif vient examiner ce qui a été fait par le secrétariat. Donc il se réunit, et d'ailleurs le conseil exécutif se réunit beaucoup plus régulièrement que la conférence générale. Pourquoi c'est politique, à mon avis? Bah parce que c'est l'organe qui est en charge du budget, et le budget est comme d'habitude le nerf de la guerre. Donc je pense que c'est effectivement un lieu du politique, une arène du politique, mais effectivement on a souvent l'idée que c'est seulement là que se joue la politisation et la politique dans les organisations internationales, alors que la politique est absolument partout. Et on a souvent cette vision des organes politiques parce qu'on y voit les États, et de l'extérieur effectivement, et c'est exactement comme le Conseil de sécurité de l'ONU, c'est-à-dire que c'est ces organes-là qui focalisent l'attention médiatique aussi, et c'est là qu'on voit les rivalités interétatiques. Et donc, on imagine que c'est uniquement là que se joue la politique. En réalité, la politique, elle se joue partout, et elle se joue même à l'intérieur des secrétariats. C'est-à-dire que si on prend la personnalité, le statut du directeur général ou du secrétaire général de l'ONU, c'est des fonctions qui sont intrinsèquement politiques. Il s'agit de représenter l'organisation, et le terme même de secrétaire général est complètement schizophrénique, c'est-à-dire c'est à la fois le chef du secrétariat, donc c'est un secrétaire administratif, et à la fois c'est un général, il a un rôle politique. Et des secrétaires généraux comme Kofi Annan ont joué le rôle très politique.
Là, ce conseil exécutif de l'UNESCO, il est présidé par une Libanaise, Vera El Khoury Lacueil, qui s'était présentée sous cette nationalité, donc libanaise, contre Audrey Azoulay en 2017. Mais aujourd'hui, elle ne représente pas le Liban, Vera El Khoury Lacueil. Elle représente l'île de Sainte-Lucie, dans les Caraïbes. C'est comme ce milliardaire syrien de 85 ans sur lequel le Parisien avait enquêté il y a quelques mois, en avril, Wafik Saïd, qui aujourd'hui est ambassadeur de Saint-Vincent et les Grenadines, le archipel des Petites Antilles, qui en a fait son délégué permanent de 96 à 2018 et à nouveau depuis le début de l'année, alors qu'il n'a aucun rapport. Et aujourd'hui, beaucoup de dire qu'en fait, ces postes d'ambassadeur de l'UNESCO, ça sert beaucoup à des personnes qui sont, pour certaines d'ailleurs, impliquées dans des affaires poursuivies en justice et qui se targuent de leur passeport diplomatique pour ne pas être poursuivies. Par exemple, Pierre Falcon, qui était visé par des mandats d'arrêt pour trafic d'armes, qui avait dégainé aux autorités françaises son passeport diplomatique parce que le président de l'Angola à l'époque venait de le nommer à la surprise générale ambassadeur auprès de l'UNESCO. Ce sont ces personnes-là qui parfois n'ont absolument aucun rapport avec les pays qu'ils représentent, qui ont un rôle et une influence dans les décisions de l'UNESCO.
Oui, alors après...
Où on surestime leur rôle.
Je pense que... Alors, c'est effectivement intéressant de le soulever. Après, je connais pas forcément le détail de ces nominations-là. Par contre, c'est surtout le bureau, en fait, du conseil exécutif qui pèse, puisque c'est lui qui va, justement, définir l'ordre du jour, etc. Donc, à mon avis, c'est surtout les états du bureau du conseil exécutif qui vont peser, plutôt que, effectivement, ces ambassadeurs... en tout cas pour ce que j'en sais.
Qui, eux, n'ont pas totalement le pouvoir, par exemple, d'inscrire un site sur la liste du patrimoine, alors que ces histoires d'inscription de sites, ça provoque d'énormes querelles, c'est très politique aussi. Quand le secteur culture, par exemple, a publié en 2021 une liste de villes créatives, parmi lesquelles Srinagar, proposée par l'Inde, sauf que Srinagar est au Cachemire, revendiqué par le Pakistan. Oui. C'était une enquête de l'Express. Alors, est-ce que c'était volontaire ou pas? En tout cas, ils n'ont pas pu annuler leur décision, parce que Narendra Modi s'était déjà félicité publiquement de cette inscription, ou quand l'UNESCO a voulu classer sur la liste de patrimoine en péril la Grande Barrière de Corail, elle s'est mis l'Australie à dos, elle a dû le renoncer. Donc il y a comme ça du politique en effet partout, mais parfois c'est plus visible, plus visible que d'autres. Alors vous nous parliez, Mathilde Leloup, de la destruction du patrimoine qui est désormais systématique dans les guerres et qui aujourd'hui fait l'objet réellement d'un mandat d'émission de maintien de la paix de l'ONU avec l'UNESCO sur la reconstruction. Qu'est-ce qu'on peut en dire? Dans quelle mesure l'UNESCO a-t-elle entendu ou pas les critiques qui lui étaient formulées, notamment en Bosnie-Herzégovine, quand il s'est agi de reconstruire le pont de Mostar? On avait dit que l'UNESCO n'a pas du tout consulté les populations locales. Est-ce qu'elle le fait davantage?
Alors, il y a eu effectivement un progrès. Alors, juste pour revenir sur les opérations de maintien de la paix, c'est vraiment un cas ponctuel. C'est-à-dire, il y a eu la MINUSMA et la résolution 2100 qui l'a déployée. Ensuite, il y a eu la résolution 2347
qui a généralisé.
Ouvert la possibilité.
A ouvert la possibilité,
ouais, voilà, c'est du langage juridique très... Okay. Mais on s'est demandé si ça créait un précédent. Au final, bon, il n'y en a pas eu d'autres. Et je ne suis pas sûre que ça pourra réellement ancrer dans les conditions qui étaient assez permissives, finalement, à l'époque. Je ne sais pas, dans l'État actuel du multilatéralisme si on pourrait revoir une telle entreprise. Pour ce qui est de la reconstruction, effectivement, le cas de la reconstruction du pont de Mostar, qui avait à l'époque été d'ailleurs entrepris sous l'égide de la Banque mondiale, c'est une reconstruction qui est extrêmement rapide et ça montre bien l'aspect très politique du patrimoine. C'est-à-dire que là, et symbolique surtout, c'est-à-dire que le pont de Mostar, c'est tout simplement un pont, c'est vraiment le symbole aussi relié des communautés qui seraient en conflit, etc. En réalité, ça ne reliait pas deux communautés en conflit. Et ce qui est assez intéressant, c'est qu'on a privilégié le symbole sur la signification concrète pour les populations qui venaient de vivre des traumatismes, de perdre leurs proches et d'être en situation de conflit. Donc, en fait, ce qui est quand même important de soulever, et ça, vraiment, les recherches, notamment anglo-saxonnes en archéologie, les critical heritage studies le montrent bien, c'est qu'une reconstruction trop rapide, c'est vraiment comme un pansement trop rapidement collé sur une blessure qui n'aurait pas été guérie. Et la reconstruction, et d'ailleurs j'aime mieux parler de réparation, c'est une entreprise globale qui prend du temps. Il faut accepter ce temps de la réparation qui est aussi lié au post-conflit, parce que sinon, en fait, tout simplement, c'est des symboles qui sont vides de sens. Et je pense que l'UNESCO a su acter cela avec Tombouctou. Parce que les populations locales ont été réellement consultées. Alors après, c'est une partie de la population qui a contribué à la reconstruction. C'est seulement les maçons. Mais il y a eu quand même une volonté d'être un peu plus, ce qu'on dit, bottom-up dans le vocabulaire des organisations, c'est-à-dire partir du bas vers le haut et non pas imposer les volontés de l'organisation en bas.
Comme en 2018, par exemple, à Mossoul, oui, en Irak, où l'UNESCO a totalement assumé une démarche participative. Comme elle dit, cet ingénieur en charge du projet, Mostafa Nadine, en expliquait l'ambition à RFI.
Sur le mur à droite, c'est l'ancien albâtre. Et de ce côté, c'est un nouvel albâtre car ce mur a été pulvérisé par une frappe aérienne. Nous avons récupéré l'albâtre dans les décombres après la bataille finale et nous l'avons recyclé pour reconstruire les maisons. Dans l'intérieur des maisons, on utilise des produits non toxiques pour prévenir l'humidité et pour purifier les espaces. L'idée, c'est de protéger à la fois la culture locale et l'environnement.
En quelques mots, pour conclure, Mathilde Leloup, qu'est-ce que ça veut dire de faire revivre l'esprit de Mossoul? C'est le nom du programme de l'UNESCO qui dit que 95% des équipes sur le chantier sont composées d'Irakiens, des ouvriers aux ingénieurs, qu'elle a contribué à diplômer 2800 Irakiens dans les métiers de la construction et du patrimoine. Or, des habitants de Mossoul sont assez critiques de la façon de faire de l'UNESCO, comme l'architecte Hissane Fethi, par exemple, qui en parlait au journal Le Monde récemment. Quelle est aujourd'hui, quelle est l'ambition de l'UNESCO dans les pays en guerre où il s'agit de reconstruire? Quel conseil entend-elle? Qu'est-ce qu'elle n'entend pas? Qu'est-ce qu'on peut en dire pour conclure?
Pour en tout cas, le projet Faire revivre l'esprit de Mossoul, c'est un projet qui a été vraiment très ambitieux parce que c'était aussi la transversalité du projet qui a marqué, c'est-à-dire il fallait à la fois faire repartir la vie culturelle de Mossoul et non pas seulement se focaliser sur du patrimoine. Donc il y a eu aussi de l'habitat qui a été reconstruit. Et je pense que l'UNESCO est progressivement en train de s'orienter vers une approche plus, on va dire, humaine, plus humanitaire peut-être aussi, en tout cas dans la rhétorique, c'est ce qu'elle dit, se rapprocher des populations et donc sortir un petit peu aussi de cette logique de on reconstruit uniquement les sites très emblématiques, très symboliques, très connus, pour en fait s'intéresser au patrimoine ordinaire aussi, à l'habiter, et aussi reconstruire des écoles, reconstruire des hôpitaux, reconstruire en fait ce qui permet de faire repartir la vie quotidienne.
Et pas seulement la mosquée Al-Nouri à Mossoul ou des maisons historiques qui sont en effet au cœur de son programme de réparation. Mm-hmm. Comme vous dites, l'UNESCO beaucoup plus critiquée dans ce qu'elle a fait ou surtout ce qu'elle n'a pas fait dans le Haut-Karabakh pendant la guerre menée par l'Azerbaïdjan à l'Arménie. On en parle juste après un morceau de reggae inscrit au patrimoine immatériel de l'UNESCO, Do the Reggae de Toots and the Metals, 1968.
Yeah.
reggae de Jamaïque inscrit au patrimoine culturel immatériel de l'UNESCO, qui souligne le rôle de cette musique dans de nombreux combats contre l'injustice ou en faveur de l'humanité. L'UNESCO, un monument du multilatéralisme en péril, c'est le premier épisode de notre série sur le patrimoine trésor des nations pour les 80 ans d'une institution à la fois puissante quand il s'agit d'établir les listes de sites à protéger, mais impuissante à les protéger bel et bien en cas de guerre, car son action reste soumise à la bonne volonté des belligérants et à leurs opérations d'influence.
France Culture, Culture Monde, Julie Gacon.
Nous sommes venus faire nos derniers adieux à Daddy Vank, car nous ne savons pas quel sera son destin. Dans mon imagination, il sera très cruel.
Daddy Vank est un monastère en pierre dorée à flanc de montagne situé dans le Haut-Karabakh. L'Arménie l'a laissé aux soins d'une communauté locale depuis que la région est repassée sous le contrôle de l'Azerbaïdjan, comme le rappelle cet homme rencontré par France 24. Pourquoi a-t-on dit que l'UNESCO avait été non seulement impuissante à protéger les sites du patrimoine sur place, mais aussi sous influence de l'Azerbaïdjan ? Bonjour Anita Kachaturova.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes doctorante au Cevipol et à l'Université libre de Bruxelles. Quand est-ce qu'on a pris la mesure d'abord de l'ampleur des destructions dans le Haut-Karabakh, du patrimoine que l'Arménie considérait comme sien, jusqu'à la fin 2022 quand elle a dû céder ce territoire à l'Azerbaïdjan ?
Alors, en 2023, pour être plus précise, donc en septembre 2023, quand il y a eu une attaque massive de la part de l'Azerbaïdjan sur les territoires du Haut-Karabakh qui continuait d'être habité par les Arméniens après la guerre de 2020, qui avait déjà permis à l'Azerbaïdjan de reprendre des territoires du Haut-Karabakh. À ce moment-là, quand il y a eu cet exode massif de la population, en fait, qui représentait l'entièreté de la population arménienne qui habitait dans cette région, on a eu une visibilité plus grande en fait sur ce que ça représentait d'un point de vue d'une perte en fait d'une histoire, d'une mémoire millénaire, et notamment les plus de 5000 monuments arméniens qui étaient laissés dans le Haut-Karabakh qui passaient sous le contrôle de l'Azerbaïdjan, qui avait une histoire déjà peu connue internationalement, puisque voilà, on va revenir là-dessus, sur le rôle de l'UNESCO notamment au cours de ces années. Mais donc une histoire qui avait été jonchée en fait de destruction systématique du patrimoine arménien sur les territoires souverains de l'Azerbaïdjan.
Il y a aussi l'exclave du Nakhitchevan, ce territoire autonome contrôlé par l'Azerbaïdjan mais qui n'a aucune continuité territoriale avec ce pays. Là, le patrimoine a été détruit à 98% entre 97 et 2011, comme ce cimetière arménien fait de tombes gravées, les Kachkars qui a été rasé en 2005. Le Haut-Karabakh, on parle de 33 monastères, 250 églises, 80 chapelles, très gravement endommagées, voire à certains endroits totalement détruits, comme l'église Saint-Jean-Baptiste, construite au XIXe siècle. Il y a de tout temps entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan une dispute pour dire qui des deux États est propriétaire, entre guillemets, de ce patrimoine-là. L'Azerbaïdjan dit que ces monuments ont été construits par les ancêtres des Azéris, les Albanais du Caucase, à ne pas confondre avec ceux des Balkans, quand l'Arménie dénonce un processus d'azerbaïdjanisation de ses œuvres. Donc à partir de 2020, l'Arménie fait appel aux instances internationales. Que fait l'UNESCO en particulier, Anna Kachaturova?
Oui, alors d'abord, j'aimerais préciser que donc ces guerres, en effet, mémorielles, qu'on pourrait dire ces guerres de patrimoine où une partie et l'autre prétend à la en fait à la légitimité de ce patrimoine, à l'appartenance de ce patrimoine à tel ou tel pays. État. Il s'agit en vérité de la part de l'Azerbaïdjan d'un processus de falsification, et je pense que c'est important de ne pas les mettre en miroir et de pas faire d'équivalence, puisque ce qui se fait en Azerbaïdjan, et ça a été démontré dans de nombreuses recherches indépendantes d'historiens internationaux, c'est vraiment une manipulation de l'histoire et une réécriture de l'histoire pour s'approprier un patrimoine millénaire arménien qui, du fait des divisions territoriales qui ont eu lieu dans cette région-là, se sont retrouvés en fait dans les frontières de l'Azerbaïdjan.
Oui, l'Arménie rappelle que le Haut-Karabakh a été évangélisé par un certain Saint Grégoire l'Illuminateur, comme le reste de l'Arménie au 3e et 4e siècle. Mais pour vraiment, parce que le temps file, Anna Kachatourova, parler de la façon dont l'UNESCO s'est saisie ou pas de ce dossier-là.
Alors l'UNESCO, à partir de 2020, a été plus active que ce qu'elle n'a été par le passé, à savoir, vous l'avez mentionné, la destruction du cimetière arménien de Djulfa où en 2005, où là, l'UNESCO avait été complètement quiet. En 2020, l'UNESCO a fait des déclarations, a voulu visiter la région. Et malheureusement, ça n'a pas été possible puisque il faut l'accord des deux États belligérants et l'Azerbaïdjan ne donnait pas son accord. Jusqu'à aujourd'hui, l'UNESCO n'a pas pu visiter la région du Haut-Karabakh, n'a pas pu constater l'état du patrimoine arménien. En ce qui concerne l'affaire à la Cour internationale de justice, il faut savoir que la Cour internationale de justice a, à partir de 2021, ordonner des mesures provisoires à l'Azerbaïdjan qui donc dans le contexte en fait de la convention sur la prévention des discriminations de toute forme de discrimination raciale a ordonné à l'Azerbaïdjan de faire tout pour préserver et protéger le patrimoine arménien qu'elle avait conquis au cours de la guerre de 2020 et cette décision a été confirmé en 2023 à la suite donc de l'attaque et de l'exode massif des Arméniens du Haut-Karabakh. Malheureusement, on fait face à une impossibilité de la mise en œuvre de ces décisions provisoires et l'UNESCO n'a malheureusement pas les moyens d'agir. Mais j'aimerais préciser aussi que l'UNESCO a pendant des décennies servi à en fait embellir l'image de l'Azerbaïdjan. Donc l'Azerbaïdjan a pu utiliser l'UNESCO comme un outil pour de diplomatie internationale, pour se redorer le blason, alors même qu'il détruisait le patrimoine arménien, qu'il falsifiait le patrimoine arménien. La destruction du cimetière de Djulfa en 2005 est un exemple flagrant. Faut préciser par exemple que 3 mois avant cette destruction massive à Djulfa, le directeur général de l'UNESCO, Monsieur Koichiro Matsura, avait visité l'Azerbaïdjan dans une visite officielle qu'il a ensuite été nommé membre étranger de l'Académie nationale des sciences de l'Azerbaïdjan, que la première dame de l'Azerbaïdjan et la première ministre, qui n'est nulle autre que la femme, l'épouse
du président
d'Ilham Aliyev, le président, a servi d'ambassadrice de bonne volonté.
Oui, elle a organisé même au siège parisien de l'UNESCO une exposition intitulée Azerbaïdjan, terre de tolérance, il y a quelques années à Paris. Donc, ce qui, bien sûr, a fait s'étrangler, on le comprend, les Arméniens qui, à l'époque, voyaient déjà leur patrimoine être saisi ou se l'approprier, en tout cas par l'Azerbaïdjan. C'est vrai qu'il y avait une enquête du Monde en 2017 qui parlait de la diplomatie du caviar de l'Azerbaïdjan, qui racontait comment le pays achetait la sympathie de dirigeants européens. Peut-être en quelques mots, qu'est-ce qu'on sait en ce qui concerne spécifiquement l'UNESCO? De l'argent aussi a été versé par certains canaux?
Oui, alors l'Azerbaïdjan a en effet fait des donations très importantes à l'UNESCO à partir de 2013, donc notamment une donation de 5 millions d'euros à une période où justement les États-Unis s'étaient retirés et donc l'UNESCO faisait face à des problèmes financiers, mais plus spécifiquement dans ce grand scandale de corruption qui a été révélé en 2017 et qu'on appelle le Laundromat azerbaïdjanais, les journalistes d'investigation ont pu révéler que le mari de l'ancienne
présidente Irina Bokova,
directrice générale Irina Bokova, Monsieur Kalin Mitrev, avait perçu autour d'un demi-million d'euros d'un fonds secret lié au clan Aliyev.
Merci.
Donc on est là, en effet, dans une vaste opération de corruption qui mène jusqu'au sommet en fait de la représentation de l'UNESCO.
Je vous remercie beaucoup Anita Kachaturova d'avoir été avec nous pour en parler. Vous êtes doctorante au CIVIPOL à l'Université libre de Bruxelles et je remercie notre invitée Mathilde Leloup, maîtresse de conférence à l'Institut d'études européennes de l'Université Paris 8, directrice adjointe du CRESPA. Et je signale Mathilde Leloup que un livre que vous venez d'écrire va paraître en janvier au Cavalier Bleu, Idées reçues sur les organisations internationales. Merci d'avoir été avec nous. Et un tout petit mot pour ajouter qu'à l'occasion des 80 ans de l'UNESCO, France Culture a mis en ligne un podcast hors série du cours de l'histoire de Xavier Mauduit autour d'archives passées et récentes de l'UNESCO, preuve d'humanité hier et aujourd'hui. C'est ainsi qu'il s'appelle. C'est l'heure de la revue de presse internationale.
France Culture, la revue de presse internationale. Catherine Dutu.
Le gouvernement britannique va annoncer aujourd'hui, Catherine, de nouvelles restrictions pour les demandeurs d'asile.
La ministre de l'Intérieur, Shabana Mahmoud, assume au sein d'un gouvernement travailliste de gauche de durcir les règles du droit d'asile qu'elle juge trop généreuses au Royaume-Uni. Sa réforme vise à lutter contre l'immigration illégale, souligne le Télégraphe, journal conservateur, dans un pays qui a vu près de 40 000 hommes, femmes et enfants débarquer clandestinement sur les côtes anglaises depuis le début de l'année, ajoute le Télégraphe, soit 3 000 de plus que l'an dernier. L'une des mesures phares de ce plan, faire attendre 20 ans les personnes qui ont obtenu le statut de réfugié pour obtenir un titre de séjour permanent sur le sol britannique. 20 ans d'attente contre 5 ans aujourd'hui, rappellent le Télégraphe et le Guardian. Ces réfugiés devront renouveler leur demande de séjour tous les 2 ans et demi, mais si leur pays est soudain jugé sûr par Londres, ces exilés seront immédiatement renvoyés dans leur pays d'origine, annonce le Guardian. Le quotidien britannique de gauche précise que les politiques de dissuasion ont peu d'influence sur le choix de destination des demandeurs d'asile. Et c'est aussi ce que soutient Enver Solomon à la tête du Conseil pour les réfugiés. Pour lui et son association, citée par le Financial Times et le Télégraphe, la réforme du gouvernement ne dissuadera pas les personnes persécutées, torturées ou ayant vu des membres de leur famille tués dans des guerres brutales. Au contraire, ajoute-t-il, les demandeurs d'asile risquent davantage de plonger dans la misère, dans les mains des passeurs, avec le risque de dormir à la rue.
Suppression également des aides sociales automatiques.
Celles qui garantissent un logement et une aide financière aux demandeurs d'asile, fini. Désormais, les exilés qui ont la possibilité de travailler devront subvenir à leurs besoins, insiste Shabana Mahmoud. La ministre de l'Intérieur britannique propose également de renforcer les voies légales d'immigration vers le Royaume-Uni, note le Times, depuis le Soudan ravagé par la guerre ou encore l'Érythrée. Lutter contre l'immigration clandestine est une mission morale pour la ministre de l'Intérieur. Des mots que l'on n'aurait jamais entendu dans la bouche des travaillistes il y a quelques années encore, remarque la BBC. Mais l'extrême droite et le parti Reform de Nigel Farage ont changé la donne après avoir vu aussi des mois de manifestations anti-immigration, comme ce week-end à Crowborough, dans le sud-est de l'Angleterre, où 2000 personnes ont dénoncé le projet d'héberger des demandeurs d'asile dans une caserne militaire plutôt que dans un hôtel, explique le journal local The Argus, ainsi que le Times et la BBC.
It is an issue that is dividing our country and I see this polarization all over the country including in my own constituency.
L'immigration divise notre pays et je constate cette polarisation partout, y compris dans ma propre circonscription, a déclaré hier la ministre de l'Intérieur Shabana Mahmoud sur la BBC. Nous avons, dit-elle encore, un système qui est hors de contrôle, c'est injuste et cela exerce une énorme pression sur les communautés. Il est donc important de rétablir l'ordre et le contrôle de ce système migratoire pour retrouver la confiance du public. C'est l'objectif de ma réforme. C'est pourquoi, dit encore la ministre de l'Intérieur, nous cherchons à réduire le nombre d'arrivées au Royaume-Uni, à augmenter le nombre d'expulsions de personnes qui n'ont pas le droit de séjourner dans notre pays. Shabana Mahmoud tente déjà de calmer l'aile gauche de son propre camp travailliste en expliquant que la colère suscitée par l'immigration clandestine pourrait se retourner contre les immigrés de deuxième génération, comme elle, rapporte le Guardian. Avertissement lancé par ailleurs aux ambassades d'Angola, de Namibie et de la République démocratique du Congo à Londres. Elles ont un mois pour commencer à coopérer en matière d'expulsion, sous peine ensuite de sanctions, indiquent le Times et le Guardian. Des mesures encore insuffisantes selon l'opposition. La droite réclame un retrait de Londres de la Cour européenne des droits de l'homme pour expulser davantage d'immigrés.
Et la question de l'immigration au cœur également du premier tour de l'élection présidentielle au Chili.
Avec plus de 26% des voix, la candidate communiste modérée, Yanet Jara, devant son rival d'extrême droite, José Antonio Kast, à 24%. Mais c'est lui qui bénéficie de la plus grande réserve de voix pour le second tour de la présidentielle le 14 décembre prochain, analyse El Mostrador, alors que le taux d'homicide au Chili est passé de 2,5 à 6 pour 100 000 habitants en 10 ans, indique El País. L'extrême droite affirme que les 337 000 étrangers clandestins au Chili, en majorité des Vénézuéliens, sont responsables de cette augmentation de la criminalité. Et le thème du retour à l'ordre a été adopté par tous les candidats à la présidentielle, analyse El País, y compris par Yanet Jara, rapporte Mega Notifias et Infobae. Mais la candidate de gauche refuse les idées radicales. Ne laissez pas la peur endurcir vos cœurs, a-t-elle déclaré. Pendant ce temps, José Antonio Kast, un avocat de 59 ans, fils d'un ancien soldat de la Wehrmacht, qui a fui ensuite vers le Chili après la Seconde Guerre mondiale, promet lui des expulsions massives, la construction d'un mur à la frontière du Chili, le déploiement de l'armée aussi dans des zones critiques, avec des accents trumpistes, note El País. José Antonio Kast, qui avait clamé un temps son admiration pour Pinochet, pourrait donc remporter la présidentielle le mois prochain, avec un parlement déjà acquis à sa cause, note El Mostrador. Ce serait un tournant pour le Chili.
Merci beaucoup Catherine Dutu.